Vendredi, le point de Max.
11h02 minutes dans le point de Max à Boulevard. Grosse victoire hier des Blue Jays de Toronto, 13-4 sur les Mariners de Seattle pour porter la série à 2-1, toujours en faveur des Mariners. Les Jays qui pouvaient pas vraiment l'échapper hier, parce que si on se retrouvait ce soir à 0-3 à Seattle, mettons que ça regardait très très mal. Mais entre autres, grâce à une troisième manche de 5 points, on a filé vers une victoire de 13-4. Le Canadien de Montréal, lui, qui reprend l'action ce soir 19h face aux Predators de Nashville, qui seront du côté du Centre Bell. Est-ce que le Canadien pourra poursuivre sur sa belle séquence depuis le début de la saison? C'est à voir. C'est vraiment à notre portée contre les Prédateurs. Et dans la NFL, les Steelers de Pittsburgh qui visitent les Bengals de Cincinnati de Pascal Cévé, qui pourra maintenant recommencer à regarder les matchs de ces Bengals parce qu'il est de retour. Et j'en connais deux qui sont très bien entourés en studio présentement, Audrey Pinchot et Pascal Cévé.
Moi, je suis bien entouré de toi, c'est ça que tu essaies de dire?
C'est exactement ce que j'ai dit. Merci d'être là, les amis.
Ah, ben, je suis vraiment contente parce que l'open mic, ça sert à mille une affaire. Dans le volet humain de ce qu'on peut apporter dans les entrevues. Puis, j'avais en tête, quand Pascal est parti faire l'ascension du Kilimanjaro, qu'il fallait qu'elle vienne passer la demi-heure avec nous autres. Puis, c'est le fun parce que Pascal fait de la radio, ce qui veut dire que moi, pour la prochaine demi-heure, je suis un peu en congé. Je me recule, je la laisse parler. Vous avez des questions. 88-971-1021. Il y a tellement d'affaires à aborder. Hygiène, hébergement, bouffe, la PrEP. Est-ce que ça a bien été fait? Le pendant, le sommet. Il y a tellement de choses.
Le sexe.
Écoute pas, d'après moi, ça a été tranquille, Max. On y demandera, mais d'après moi, ça a été tranquille. Pascal?
Salut!
Re-bienvenue!
Hey, merci, on dirait que je suis partie, ça fait 3, 4, 5 mois. C'est vraiment étrange que ça fait comme feeling. Finalement, je suis partie le 26 septembre.
Oui, mais quand même, t'as dû vivre toutes sortes d'affaires complètement dépaysées.
Plus grande déconnexion à vie.
J'en doute pas.
Vous me connaissez, moi, quand je suis en vacances, souvent, je déconnecte des réseaux sociaux. Je déconnecte un peu, même si je trippe sur alimenter mes pages personnelles, Instagram et tout ça. Ça reste que c'est la plus grande déconnexion totale que j'ai vécu, d'abord parce qu'on n'avait pas de réseau cellulaire quand on a commencé. Deuxièmement, parce qu'on dirait qu'on retournait dans ces années-là où, pour parler à nos amis, il fallait appeler sur une ligne téléphonique dure, puis on ne savait pas si on allait se faire répondre. Mais encore là, on se concentrait sur le moment présent.
Vous avez pu appeler des proches?
Ben non, moi je vous ai appelé en ondes. C'est la seule façon que je puisse rassurer ma famille.
Ben d'ailleurs,
parler à mes amis,
ta famille nous écrivait.
Ma famille? Ma mère?
Je pense que c'est ton père ou ta mère.
Mon père a écrit.
Je pense que ton père a écrit. Puis en effet,
mon père a écrit en 12 ans que je fais de la radio, il n'a jamais écrit.
Ben, qui était content d'avoir de tes nouvelles et rassuré. Ouais, ouais, tu iras chercher son numéro dans les affaires de texto. Ah. Là.
Ouais, mais là, sa fille est au Kilimanjaro. Mais c'est normal.
Moi, j'ai deux types de parents que j'aime de façon exceptionnelle, mais j'ai vraiment ma mère qui est anxieuse, puis mon père qui... Et a toujours été, je te donne la corde, mais excusez pour l'expression, pas avec. Ouais. Donc, le plus que je peux faire, le plus j'ai fait dans ma vie, puis il a toujours poussé. Puis ma mère a été cette personne rassurante, filet de sécurité, qui était comme très humaine là-dedans, mais qui chantait, qui était peut-être stressée, puis qui me permettait de mieux de me préparer, tandis que mon père, c'est on est préparé, mais on va vivre ce qui va arriver sur le moment présent.
Prenons pas pour acquis que les gens savent ce que t'es parti faire dans les trois dernières semaines. Prenons pas pour acquis que les gens savent c'est où, ça sert à quoi, pourquoi t'as fait ça. Oui. Remets-nous peut-être en contexte.
Allons-y à la Denis Gravel.
Oui, ben, c'est ça. Remets-nous en contexte. Là. Ça a pris combien de jours monter cette affaire-là? T'es allé là pourquoi? Je te laisse aller, Pascal.
Premièrement, c'était pas sur ma bucket list. Je voyais les gens faire ça et ils m'impressionnaient. Ça m'inspirait. J'étais comme... Je pense que j'étais quelqu'un qui était en forme physique, mais jamais j'aurais mis et osé mettre sur une liste personnelle aller monter le plus haut mont en Afrique, le Kilimanjaro. Oui. Jamais j'avais mis sur ma liste une préparation d'un an pour atteindre le sommet de 5895 mètres dans une altitude qui est considérée extrême et ça prend 8 jours à faire. complètement déconnectés et avec plein de feuilles consignes que s'il nous arrive de quoi, ben, on était d'accord.
Ouais. C'est-tu comme l'Everest où il faut que tu redescendes, tu remontes un peu, tu redescends, tu remontes un peu?
On est parti pendant, environ 2 semaines et demie. Là-dedans, t'as 8 jours intenses, t'as une journée-ish d'acclimatation. Quand t'arrives, on est déjà en altitude parce que le Kilimanjaro en Afrique, en Tanzanie, bon, on est déjà un moment où c'est un peu déstabilisant pour le corps, mais sans plus. Voyez-vous, moi, je ressentais absolument rien à ce moment-là. Puis oui, pendant la montée, la route qu'on a prise, c'est la plus longue qui est disponible. C'est celle de 7 à 8 jours qui s'appelle l'Emocho, parce que tu as plusieurs types de routes que tu peux prendre pour monter le Kilimanjaro. Et celle-là permet, à certains moments dans ta montée, de redescendre pendant quelques heures ou dormir peut-être à moindre altitude que ce que tu as gravi pendant la journée pour que ton corps s'adapte plus facilement et de façon un petit peu plus, humaine, non violente.
Qu'est-ce qui se passe avec ton corps, justement, si tu prends pas le temps de t'adapter? Moi, c'est une question que je me pose depuis que tu es partie parce que je me dis, ben mettons que tu décides que tu y vas d'une shot, là, ça change quoi?
C'était la chose qui me faisait le plus peur parce qu'il y a des ultramarathoniens qui sont morts sur le Kilimanjaro. Tu te dis, ils sont super en forme, mais tout tourne autour de l'altitude. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas ressentir puis comment tu vas réagir tant que tu ne le vis pas. Nous, on avait le Diamox. C'est une médication, en fait, qui était Marc-Claude Thivierge, qui était dans notre groupe, pharmacienne propriétaire pendant plusieurs années, femme exceptionnelle, qui est un peu notre mère. Moi, je n'ai que de grâce et de gratitude envers cette femme-là. Nous avait préparé un genre de pédigree là, de médication en disant, on arrive là, à quelques heures de nos premières montées, on va prendre demi-Diamox et on va faire ça 2 fois par jour jusqu'à l'arrivée du sommet où on va en prendre une complète. Ça diminue les effets de l'altitude qui sont, entre autres, tu peux avoir plein de choses. Tu peux enfler. Donc, tes yeux peuvent comme sortir un peu de ta tête. Ta tête devient un genre de balloon.
C'est globuleux.
T'es vraiment laid. OK? Mettons pas la même. Tu peux avoir des pertes d'appétit. Tu peux avoir de la difficulté à dormir. Tu peux avoir le va-vite, que ce soit par en haut que ce soit par en bas. Déjà, l'altitude t'amène à avoir moins d'oxygène. Une fois sur le sommet, t'as jusqu'à 60 % moins d'oxygène. C'est fulgurant ce que ça peut faire, honnêtement. Je pense qu'on connaît pas ça du tout. Tu peux avoir une fatigue extrême en pleine journée. Quand tu as dormi 8 heures, tu peux avoir des nausées, un mal de tête du genre, j'ai un étau sur la tête, puis il y a quelqu'un qui me le visse.
As-tu été affectée par ces choses-là?
Je ne sais pas qui veillait sur moi pendant le Kilimanjaro, mais je dois dire que ça n'a vraiment pas été ma contrainte principale. Ça a même pris du temps avant que je ressente quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir ressenti l'altitude seulement la journée du sommet.
Okay.
Il y a une nuit où je me suis réveillée, puis je fais « Oh! » Parce que moi, je fais de l'asthme. Faut considérer que j'en fais à l'effort au froid. Fait que là, tu vas aller combiner 2 choses qui sont complètement omniprésente pendant toute la montée. Là. Le froid, tu vas geler comme tu vas avoir chaud la même journée à l'espace de 2 minutes. Puis à l'effort, ben, parce que tu fais des 10 heures d'activité par jour, presque au minimum. Mais je m'étais préparée, j'avais demandé à ma médecin de famille est-ce qu'il y a une contre-indication. Elle m'avait dit non. Elle m'avait mis par contre sur des pompes de cortisone que j'avais jamais pris de ma vie. Donc j'en prenais le matin et le soir, 3 mois avant de partir. Puis j'avais une pompe qui est, normalement, si tu fais une crise d'asthme, on la prend sur le coup. Mais ça faisait des années, moi, l'asthme, même quand je l'avais découvert, c'est quand je faisais du rugby, puis je m'étais dit, je vais essayer de le contrôler, je ne suis pas à risque de. J'avais toujours ce qu'il fallait de côté, mais c'est la première fois que je l'ai pris au sérieux, avant de partir, en me disant, je vais donner tout ce que je peux et mettre toutes les chances de mon côté. Fait que ça a ouvert mes voies respiratoires un peu comme vous les avez ouvertes au quotidien. Ça m'a permis d'être un peu à ce niveau-là. Et il y a une nuit. Ouais, il y a une nuit, là, puis il nous disait, moi, je dormais avec Joannie Fortin dans la tente, qui nous avait dit, bon, toutes les asthmatiques, on était 3 dans le groupe, vous mettez votre pompe à un endroit où que votre collègue le sait. Faut que le groupe le sache, faut que votre collègue dans la tente le sait. Parce que je me suis réveillée, puis je fais, oh, OK, là, je le sens. Puis parce que je connaissais ce que ça faisait au quotidien, j'ai été capable de me calmer. Donc, ça ne devenait pas paniquant.
Oui, ce qui ajoute souvent aux symptômes, on dirait. Là.
Et qui amplifie la crise d'asthme. Puis c'est là où tu n'es pas capable de le contrôler. Mais dans la nuit, je me rappelle, je pense que c'est 5e jour, j'ai fait « OK, là, je le sens ». Là, j'ai de la misère, fait que j'ai fait mes techniques de respiration. Je me suis recouchée et ça a passé. Sinon, ça sera plus tard au sommet où je vais l'avoir un petit peu plus ressenti.
Ton plus gros problème, ça a-tu été les ampoules?
Je me rappelle de vous parler en ondes.
T'avais pas l'air à avoir du fun.
Moi, j'ai pleuré 2/3 fois là, dans ce voyage-là. Oui, à l'arrivée à l'ascension. Là.
Tout le monde doit brailler.
Écoute, là, c'est, t'es euphorique. Pis mais c'est sûr. C'est pas ce que tu vis.
Tu peux même pas rester là longtemps.
Non, puis t'as le sentiment d'être sa brosse sans avoir pris de l'alcool. C'est un peu bizarre ouais. ce que ça fait. Fait que là, j'ai eu des larmes, OK? Mais tu te regardes, puis t'es comme, waouh, on le fait, là. On le fait pour vrai. On le fait-tu? Je suis en train de te pogner en train ouais. de le faire? On se disait ça pendant qu'on... Puis le jour où... Il y a un de nos guides de l'agence québécoise qui est venu nous rejoindre 3 jours plus tard. Il y a eu un problème, là, manifestation. Et je suis dans un aéroport. Finalement, la guide qui était supposée être avec nous n'était pas là. Ils ont shippé quelqu'un à dernière minute du côté de l'Afrique, mais on était déjà très bien entourés par Terra Ultima qui est arrivée. Puis il dit de même, de façon candide, « Y a-t-il quelqu'un qui a des ampoules dans le groupe? » Parce que puis là, ça fait des heures que je les endure, mais ça fait mal. Mais vous me connaissez mentalement, je le contrôle. T'sais. Je viens d'une famille où si t'as mal à ton pied droit, il faut que tu penses à ton pied gauche, puis tu continues. Puis c'est ça. Fait que moi, je l'avais pas dit, puis j'avais mis des second skin sur mes jambes, oui. sur mes pieds, sur les endroits où tu peux avoir des ampoules. Normalement, ça protège d'eux. Fait que je dis, moi, je pense... Et là, tout arrête. Il demande une pause. Je me dis, on marche tout droit. Là, on n'a même pas de rocher à escalader aujourd'hui. Et là, ça devient comme si c'était la troisième chose la plus importante de la vie. Moi, je comprends pas. Puis il dit, on va les regarder tout de suite parce que ça peut t'empêcher de progresser. Je me suis assise dans le buisson. J'ai enlevé ma second skin qui, en passant, c'est pas comme un plaster. T'as pas un endroit où ça... Je l'ai arraché. J'ai encore un frisson là, qui me parcourt la colonne vertébrale. Puis je m'excuse pour les oreilles qui trouvent ça difficile, mais en arrachant ça... Je suis passée d'une ampoule qui faisait mal, qui saignait dans ma botte, à un 3 cm sur la chair du côté droit oh. et 1 cm du côté gauche. Fait que moi, même si j'avais mal à droite, là, puis là, on était la troisième journée, je me disais, je vais penser à gauche, je ne pouvais pas. Ouais, je pense à mon épaule. Puis là, le guide québécois a dit, Pascal, c'est pas drôle. Là. Moi, je pense pas grave, c'est une ampoule. Il dit non. La plus petite chose insignifiante devient ton arrêt pour le sommet. Mm. Là, rappelez-vous, moi, ça fait un an que je m'entraîne pour ça. Je suis dans un groupe, je suis la plus jeune. Je suis comme, c'est pas vrai qu'une ampoule va m'empêcher d'aller au sommet. Et là, t'as tous les guides de Terra Ultima qui font ça depuis des années. C'est des machines, des athlètes olympiques qui viennent me voir. Et il y en a un d'entre eux qui me dit, ça se peut que tu fasses pas le sommet. On est toujours 3 sur 8.
Sur 8,
mon Dieu. Et là, j'ai des larmes qui coulent, puis je suis comme en mode Rambo, c'est pas vrai que... Mais en même temps, il faut que je le dise. Fait que cette journée-là où je vous ai parlé au téléphone, je pense que c'était le lendemain ou autre, je cuvais personnellement ma première expérience mentale, mon premier mur à me dire, je dois le dire si j'ai mal, je dois être consciente de cette limite-là. Mais jamais j'avais été prête pour une ampoule. Moi, j'étais comme, mon asthme va m'arrêter, l'altitude va m'arrêter, pas des ampoules.
À la limite, ta préparation physique va t'arrêter.
À la limite,
une ampoule, c'est banal.
C'est deux côtés, mais là, c'était particulier. Puis j'ai été prise en charge. Je vais me rappeler du moment que là, j'ai pleuré des larmes de genre, c'est pas vrai. Le soir même, t'enlèves ça, t'essaies de nettoyer comme tu peux, mais t'as un genre de bac d'eau chaude qui t'amène une fois par jour. Puis là, tu sais, j'ai un peu gêné dans la vie. La grande tente ouverte à 5 degrés en bobette d'entente, en train de pleurer, en train de me dire, pauvre sacrament, mes ampoules vont m'arrêter. Puis finalement, Lynn, exceptionnelle dans notre groupe physiothérapeute, qui m'a fait un genre de semi-bandage avec aussi les compétences des Africains qui étaient avec nous, de Terra Ultima et du guide. On a tout fait pour que ça ne bouge pas, puis on a mis
c'est
du coton en masse.
C'est-tu ce qui a été le plus difficile?
Hey, oui. Parce ouais. que chaque jour, j'avais les pieds en sang. Chaque jour, c'était un frottement constant. C'est 10 heures par ouais. jour là-dessus. Puis je me rappelle Rémi, un compagnon qui me disait à la Rocky, « T'as pas mal! » J'ai pas mal! Mais la dernière nuit du sommet, tu sais, ça, tu peux pas faire ça si t'as les pieds en sang. Fait qu'à chaque jour... C'était de s'en occuper comme la prunelle de mes yeux. Fait que j'étais pas prête à ça.
C'est vraiment niaiseux comme question, là. Puis je sais pas si tu vas la saisir, mais... Tu sais, il y a des gens qui font ce genre de défi-là, Pascal, puis mentalement, ça devient un game changer mm-hmm. parce que, visiblement, ils ont des choses à régler en dedans d'eux mm-hmm. autres, tu sais. Est-ce que tu penses que cette blessure-là a comme occupé ton esprit? Comprends-tu ce que je veux dire?
Moi, c'est... Il y a une affaire... Tu sais, on se dit pas souvent « je suis fière de toi », là.
Ouais.
Mais moi, il y a une affaire que je me suis dit « OK, là, ça m'émeut depuis que je suis arrivée. Je me dis, je suis fière de moi là-dessus. Je savais que mon mental était fort. Puis je savais qu'il y avait quelque chose dans les 2 dernières années qu'il avait travaillé aussi beaucoup. Puis le côté...
Détermination?
Oui, mais aussi comme vulnérabilité. De se dire, hey, ça se peut qu'à un moment dans ta vie, tu as besoin de poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un puis c'est vraiment correct.
Mm-hmm.
Mais là, j'ai fait comme, « Hey, toi, là, t'en as rien à foutre de tes ampoules. » Ça fait mal, mais c'est éphémère. Cette souffrance-là est éphémère. Le bonheur que tu vas avoir en disant « Tu l'as fait, là », va être tellement plus grand qu'à chaque jour, j'étais comme, « Hey, j'ai mal, mais j'ai pas mal. » Hey, ouais. C'est tellement le fun ce que je fais.
Puis d'être en mini-communauté, ça doit être spécial aussi. T'sais, vous étiez une petite gang. Vous étiez combien en tout à partir?
12. 12. Pour ce qu'il y en a de ceux qui grimpaient avec moi là, du groupe. Là.
Vous vous occupez les uns des autres. Ça doit être vraiment particulier moi, comme sentiment.
C'est de l'amour pur parce que tu te ramasses dans des conditions de vulnérabilité qui sont extrêmes où tu dors avec quelqu'un dans une tente, mais tu entends toutes les autres tentes à côté de toi tout au long de ton voyage, où on se change à moitié devant les autres. Puis là, en passant, il n'y a rien de sexuel, mais c'est challengeant. C'est challengeant. Tu l'avais à lingette pendant plusieurs jours. C'est challengeant de manger ce que tu ne manges pas habituellement. Tout est challengeant. Ta fatigue, il faut que tu te parles. Puis moi, ça, c'était... Si j'avais mis... Puis c'est... Rien s'est avéré de ce que j'avais mis de côté, de dire, je pense qu'un de mes concerns plus difficiles, ça va être l'effet de groupe. Parce que je les adore, mais je suis une personne qui a besoin de ces moments de solitude. Oui. Ça n'a jamais été un problème. Parce que tu te dis, tabarouette, je suis chanceuse.
C'est malade ce qu'on
dit. Je suis chanceuse. Oui. Fait que telle personne qui a une habitude qui est différente de la mienne, c'est juste drôle. Parce qu'il n'y a rien qui devrait me déranger en ce moment.
Puis l'humain prime probablement.
L'humain prime tellement. Puis la façon de prendre soin les uns des autres, qui étaient des purs inconnus pour moi il y a un an. Hein. Il y a juste Marc-Antoine Reed que je connaissais et Joanie Fortin dans le groupe. Fait que, vas-y avec 10 autres qui ont leur façon de faire, leur background différent, leur façon de gérer leurs émotions et tout ça. Tu sais, moi, je suis une fille qui, dans l'adversité, je vais rire. Ça a toujours été ça. Je vais essayer de dédramatiser au départ. Je savais que ça allait être ma force, ça va être mon arme. Pour d'autres, c'est de parler de leur bobo. Pour d'autres, c'est de dire, hey, aujourd'hui, ça ne va pas bien, je veux l'extérioriser et tout ça. Et je savais que ça, je ne pouvais pas trop me coller là-dessus parce que je suis une éponge à émotions. Donc, dans l'adversité pour certains, je me dis, je vais laisser passer ces conversations-là, puis je vais aller lui demander 2 heures plus tard, ça va-tu?
Oui.
Parce que je ne veux pas m'imprégner de ça, mais en même temps, je vais être là pour l'autre personne.
Oui.
Fait que c'est un cheminement humain et mental qui est fascinant. Puis la qualité, j'avais vraiment peur de sticker sur des petites affaires qui allaient me déranger à propreté. Moi, tu sais, j'aime ça, mon petit ping propre, j'aime ça, mon petit espace propre.
Genre, je te comprends.
Majo Fortin, qui n'a aucune problématique avec ça, qui arrive dans tente bedding badang avec ses pantoufles pleines de boîtes, puis tu sais, puis je suis comme super, non, mais je me parle, puis je me dis, c'est pas grave. Puis tu le nommes, puis Joe est comme, oh, excuse-moi. Puis Joe qui a de la misère avec le froid, qui a de la misère avec ça, puis moi qui est comme un peu mentalement affectée au militaire, là, comme une drill militaire de genre, OK Joe, alors ton sleeping, sors-le pas avant le moment où on va dormir parce qu'il faut pas qu'il pogne l'humidité. Puis ça pourrait taper ses nerfs à quelqu'un. Et Joe était comme, oh, merci! Merci des conseils!
Ouais, tu finis par te compléter, c'est ça?
Oui, puis il y a, je veux dire de quoi, tu sais, cette humanité-là des 50 personnes en passant qui étaient avec nous, 50 Africains, de 120 tribus différentes en Tanzanie qui étaient là pour veiller à nos soins. Là.
Pourquoi autant?
C'est, bon, mettons, la priorité 1, c'est que si on a à nous évacuer, sont plusieurs. Fait que si tout le monde commence à crasher, si l'hélicoptère peut pas se rendre à un endroit, c'est eux qui te descendent à bras. Fait qu'il faut du monde. Deuxièmement, on est traité en princesse là, et roi. Là. Toute la nourriture qui est faite, il n'y a rien qu'on a touché. Il n'y a pas un bol qu'on a lavé. Il n'y a pas une tente qu'on a montée. Chaque jour...
Le rêve, monter cette montagne-là.
Mais c'est parce que tu dois probablement qu'eux se disent la personne, pour passer à travers le défi, doit se concentrer que sur son mental et sur
absolument.
Son physique.
Absolument. C'était une drill militaire. On se levait à 6 heures le matin. On pensait qu'on allait faire du travail personnel et réfléchir. On n'a pas eu le temps ben de réfléchir. Là. 6 heures, il y a quelqu'un à t'attendre. Puis là, ça semble être un traitement princier, mais qui dit « Hello! » Puis « Tea or coffee? » Il est dans ta tente, là, lui, il est réveillé depuis un bout, là, ça veut dire, pour préparer ça.
Puis elle monte aussi à la montagne, eux autres.
Oh, oui, puis je m'en viens là parce que ce sont les vrais goats, là. C'est des MVP.
Attends, moi, dans ma tête, tu te levais le matin de ta tente, tu ramassais tes affaires, puis je veux dire, c'était la misère, mais vous vous faisiez demander un thé ou un café.
Puis là, tu l'entendais arriver d'une tente à l'autre, parce que c'était pas la première tente qu'il visitait, tu sais, t'entendais « Hello! » Loin.
Ah, c'est drôle. « Hello! » Hello, tu le voyais venir.
Hello! Là, t'es comme, il est-tu en devant nous autres?
C'est un cadran progressif.
Là, t'entends la valse des zippers qui peuvent t'empêcher de dormir ou qui peuvent te réveiller le matin. Hello! tout le temps. Fait qu'il te réveillait avec un... Mais moi, j'ai pas bu un de mes cafés, là. C'était tellement... sectionné et tellement rapide que même la veille, quand je préparais d'avance mes kits et tout ça, puis en même temps, je le laissais dans mon duffel bag parce qu'il faut que tu contrôles l'humidité, il faut contrôler la température. J'avais pas le temps de le boire, ce café-là. Je le prenais par gentillesse, mais t'as une demi-heure pour tout rempacter. Puis là, on s'entend qu'on est parti avec des choses qui sont compressables. C'est beaucoup de technique, des vêtements techniques, de l'équipement technique. Il faut que tu rembobines ça là, en 20-30 minutes. Il faut que tu te diriges à la tente le matin parce que deux fois par jour, ils prennent tes vitals, ton pedigree de santé. Donc, ils vont prendre ton taux d'oxygène, qui est normalement supposé être en haut de 90 si ça va bien. Ils vont aussi prendre tout ce qui est ta pression, ton rythme cardiaque. Ils vont prendre également des informations super personnelles, genre, es-tu allé à la selle ce matin? Es-tu allé faire pipi? Comment tu te sens? T'as-tu mal à la tête? Ils vont faire ça deux fois par jour parce que dans une journée, ça peut varier. Là. Tu peux être à 98 de taux d'oxygène le matin puis te rendre à 82 le soir même, le temps que ton corps se rebalance ou pas. Puis c'est ça qui va te permettre de continuer à chaque jour selon le pedigree médical, mais tu as tout comment tu te sens aussi. Fait que ça, tu faisais ça, puis après, tu pars ta journée et tu as un chef qui a préparé la nourriture. Tu as trois serveurs, puis tu es mieux de manger. Moi, j'étais leur proie préférée parce qu'ils te surveillaient en pas à peu près sur ce que tu mangeais, sauf que ce n'était que des glucides. Tu as de la misère avec ton système digestif des fois.
Oh mon Dieu!
Ça part avec le porridge. Après, tu as des toasts, après, tu as des pancakes, après, tu as des saucisses. Après, puis il faut que tu manges le plus que tu peux. Mais à un moment donné, là, tu n'es plus capable. Puis l'effet de l'altitude, moi, je le sentais là, côté alimentaire. Là,
t'avais pas faim.
J'avais pas faim. Ça me donnait même... J'ai une vidéo, puis je vais faire un peu de contenu un moment, mais j'ai une vidéo où j'étais avec Nicolas. Et le matin, je me lève, je suis un boursouflé. Puis deux, je dis, je suis plus capable. Mais je suis plus capable de manger. Mais tu sais que ton corps...
Je t'ai cœuré.
J'ai mal au cœur.
C'est ton gaz. T'as pas le choix.
T'as pas le choix, mais... Ouh, c'est tough. Fait que ces gens-là s'occupent de toi le matin. Tu repacks tes affaires, tu laves tes dents, tu pars. Bien, pendant ce temps-là, ils ont le temps de tout rembobiner, tout remettre dans un sac, mettre ça sur leur dos. C'est des gens qui vont tenir un sac sur leur tête sans jamais mettre les mains dessus, en ayant un autre 30 litres sur le dos. C'est lourd, ça fait pas de sens. Ils te redépassent pendant que tu montes le Kilimanjaro. Ils arrivent avant toi, érigent à nouveau le campement.
Mais voyons, fait que vous avez... Hey, mon Dieu, c'est capoté.
Puis attendez, là, s'ils ont réussi à ériger le campement et ils se disent, OK... Il nous restait peut-être une heure avant qu'il arrive.
Tout ils viennent est fait. Pas vous rattraper.
Ils viennent nous re-rattraper et nous disent, voulez-vous qu'on porte vos sacs de jour?
Ben non.
Vos 30 litres.
Mais c'est donc...
Je serais gênée.
C'est des athlètes olympiques.
Gênée.
Ça n'a pas de bon sens.
Mes amis, ils me filmaient parce que moi, j'étais entêtée. J'étais comme, non, merci. Merci beaucoup. Je ne te donne pas mon 30 litres. Là. Tu viens de tuer ta vie. Tu viens de... Tu sais, t'es payé.
T'es allé monter ma tente.
Pas assez... je te le donne pas, mais souvent, je te l'entêtais, il gardait son sac à un moment donné. Et mon porteur, Isaac, il me disait, donne-moi le don. Je vais rester, donne-moi le don. Puis je voyais qu'il se sentait comme mal que je dise non. Donc, mais ce sont des gens extraordinaires qui chantent tout le temps, qui sont de bonne humeur.
Là.
C'est, tu sais, quand tu disais, ça t'a tué, tout ce que je pensais qu'elle allait me faire peur ou qu'elle allait être un défi n'en était pas un parce que. Ça m'a ramené à... Hey, puis ça, c'est une constatation super privée, mais à Pascal... la Pascal que j'aime. La Pascal qui, quand je sais que je suis entourée des bonnes personnes,
ouais.
Quand je sais que je stimule ce qui, moi, m'anime dans la vie, puis là, on s'entend, on parle de défis, on parle de repousser ses limites, on parle de bouger, j'adore ça, on parle d'humain, puis autant mon groupe que j'aime d'amour et que je ne connaissais pas il y a un an, autant... Ces Africains-là avec qui j'ai pleuré en partant, parce que c'est pour moi, c'est comme je les connaissais depuis 5 ans maintenant, ça a été un rapport humain extraordinaire. C'est cette Pascal-là que je veux au quotidien. Mm. Fait que tu viens qu'à te poser des questions, t'es-tu à la bonne place dans ta vie, dans plein de sphères?
T'entoures-tu des bonnes personnes?
Oui, parce que moi, chaque jour, en étant moi-même puis à ma plus simple expression, je veux pas que ça soit chauvin, je veux pas manquer d'humilité là-dessus, mais je me faisais dire, toi, t'es tout le temps de bonne humeur, hein? C'est tellement le fun d'être avec toi, t'es notre rayon de soleil. Puis j'étais comme, OK, si c'est ça, dans un défi aussi difficile, aussi prenant...
Qu'est-ce que je peux être au quotidien?
Est-ce que j'étais à bonne place?
Ouais.
Pour pas que ça soit ça qui rayonne? Mm. Je pense que c'est la constatation principale.
C'est
de
la plus belle des leçons.
Puis je me rappelais, dans des instants de ma vie où c'était majoritairement ce qu'on me disait.
Ouais.
Fait que tu te dis, OK, là...
Ça me
c'est l'adversité,
ce
mais
dis.
C'est ouais. Tellement humain.
Ouais.
Puis moi, dans tout ça, je suis Pascal à sa plus simple expression, puis c'est la version que j'aime le plus de moi.
Ouais. Y a-tu des choses que tu t'es dit dans l'avion en revenant? OK, j'ai telle décision à prendre. faut que je coupe à telle place pour garder cette Pascale-là?
C'est sûr que je me suis dit, pendant que je marchais, quand je l'ai réalisé, la nuit avant de me coucher, ce que j'ai toujours dit dans ma vie, j'ai le meilleur filet social. J'ai le meilleur entourage qui se vaut. T'sais, j'ai eu plein de messages audio là, de gens que j'aime, au cas où que ça aille mal, que j'ai écouté juste la nuit avant le sommet parce que j'en ai pas eu besoin. C'était pas un walk in the park, c'était pas, mais presque. Là, j'avais pas mal, ça allait bien, même des grosses journées physiques, j'étais prête, en gros. Mais oui, je veux que cette sphère-là de moi perdure. C'est l'essentiel. Quand tu vas mourir à la fin de ta vie, ce qui va te rester, puis ce que j'ai toujours dit, c'est la qualité des liens que tu vas avoir créés. C'est pas ton argent, c'est pas ce que tu vas avoir accompli de plus que les autres. Je suis pas une personne dans la compétition, mais je vais être en compétition avec moi-même, par exemple, dans les prochains mois pour prendre les meilleures décisions pour moi. Mmh. Pour me dire, est-ce que je m'entoure des gens qui m'élèvent? Est-ce que j'élève des personnes? Est-ce que je donne la capacité à CV d'être celle qu'elle est, finalement? Fait que je pense que ma grande réflexion est là. Vraiment. Puis je me suis noté des choses pour y revenir annuellement. Puis me dire, là, ce bagage-là...
Ramène-toi où t'étais quand tu te sentais
ouais,
comme ça.
Tu le conserves. Parce que normalement, j'aurais pu virer folle 100 fois. Mais pourquoi je suis pas virée folle?
Tu m'as devancé parce que j'avais envie qu'on termine avec ce que tu viens de dire tellement c'est beau au final. Mais j'ai pas le choix de t'amener vers le cocasse.
Où tu fais tes besoins.
Ben, c'est ça, l'hygiène, les toilettes, l'hébergement, la bouffe. Là,
j'avais un paquet de 100 lingettes. J'ai passé à travers en 8 jours. Je n'ai pas eu l'intelligence de Nick, un de nos amis, qui avait apporté des lingettes pour personnes âgées. Fait qu'il y avait comme un désinfectant. Ouais. C'est le seul intelligent qui a pensé à ça. Chapeau. Parce que c'est ça. On avait un genre de bol d'eau chaude matin et soir, mais quand ça devenait de plus en plus froid, t'avais pas le goût d'ouvrir ta tente, te déshabiller, puis d'aller dans le bol d'eau chaude. Fait que la lingette était exceptionnelle. J'y passais mon corps chaque jour. Pour moi, c'était l'essentiel que mon stock aussi reste propre. Je pense que mentalement, ça joue, là. Tu sais, si tu pues, si tu ci, si tu ça.
Ah, c'est pas le fun.
Non. Fait que j'ai manqué de linge à un moment, mais c'était vers la fin. Fait que c'est
pas mal. Pas la fin du monde.
Mais tu sais, tu prends pas tes vêtements techniques du sommet pendant la semaine parce qu'ils vont être pleins de sueur, peut-être de l'humidité. Tout est un calcul. Mm-hmm. On reviendra un autre jour là-dessus. Côté toilette, moi, c'est mon grand challenge. Je suis extrêmement gênée de la salle de bain. Je suis extrêmement gênée du besoin. Je me dis peut-être que l'altitude va faire en sorte que j'aurai pas la possibilité d'être gênée. Puis j'espérais quasiment ça. Répondre à ces questions-là, c'est tough. Mais la première soirée, certains se sont enthousiasmés de la salle de bain. Moi, ça a été un petit peu plus tough. Là.
C'était quoi? Hein?
C'était une tente. Je veux dire, il n'y a pas...
Ça devait sentir bon, là-dedans.
Il n'y a pas d'insonorisation, mais c'est une tente zip-zou.
Ah, j'ai le caca gêné, là. Moi, j'aurais de la misère.
C'était
ça avait été pointable.
C'était tough. Blocage, tu sais. C'est mental.
Mais dans la journée, pouviez-vous aller aux toilettes?
Non, si tu avais envie...
c'est ça.
On appelle ça les bushrooms. Alors, tu marches. Puis à un moment donné, le guide s'arrête, puis il dit « Ben, à droite, c'est pour les hommes, puis à gauche, pour les femmes. »
Oh ouais! T'as-tu préféré te retenir?
J'ai eu beaucoup de misère à juste être capable, à juste avoir envie, à juste... ça a été tough au point où j'ai dû prendre la médication à un moment parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Malheureusement, ça peut être médical.
Que flushes, ouais. Surtout que tu nous disais que tu mangeais beaucoup, fait qu'à un moment donné, il va manquer de place, là.
mais c'est une toilette de bateau, par exemple. Il y en a qui ont trouvé que c'était un luxe. Incommensurable, là, d'avoir
mais dans
cette
vos
tente.
Conditions, c'est sûr que oui.
C'est un genre de toilette de bateau où tu peux flusher. Il y a deux personnes qui sont... C'est leur job. Si vous n'êtes pas... aujourd'hui, vous êtes à votre job, là, vous dites « Est-ce que c'est de la merde? » Pensez à ces deux personnes-là qui, jour après jour, pour nourrir leur famille, pour avoir un peu d'argent, pour ne pas être issus de la pauvreté extrême en Tanzanie, travaillent sur le sommet du Kilimandjaro qu'ils vont faire plusieurs fois par année et leur job va être de vider des toilettes de randonneurs de plusieurs groupes. Alors,
on est bien, hein?
Tabouin. Moi, là, je leur ai donné du pourboire supplémentaire à la fin en cachette parce que je me suis dit, je sais pas à quel point vous êtes récompensé pour être payé à vous faire chier.
Littéralement.
Fait que ça, c'est un point. La nourriture aussi, la meilleure chose que j'ai faite, puis tu sais, c'est pas une entrevue sur mon bagage, mais je m'étais mis aussi soupe Lipton, des barres bon, d'énergie protéinées. Je les avais testées avant de partir.
Pascal, je t'arrête deux secondes parce que je vois l'heure passer. Là. Et demain, tu veux-tu revenir? Je vais flusher ce que j'avais, moi, le mettre la semaine prochaine. Je pense que c'est parce que là, je t'écoute, puis il y a la bouffe, mais il y a ta préparation que je veux qu'on parle. Et le 8 jours finit avec le sommet. Je sais que le sommet est comme à part de l'expérience.
C'est une expérience en soi.
Fait que si demain, tu as envie de revenir faire une partie 2, on peut arrêter de se presser puis prendre le temps demain,
de
prendre une autre demi-heure.
Ben, est-ce que les auditeurs sont en rendez-vous? Est-ce que Max
oui, ils vont être contents. Oui, je suis d'accord,
je
vois bien.
C'est moi qui décide parce que je ne pose même pas de questions.
C'est beau, boss. mon petit segment là, que j'ai habituellement avec Max, voulez-vous qu'on continue à faire ça? Voulez-vous qu'on prenne une pause? On fait de la machine en onde, mon Dieu.
Demain, non, mais je pense que demain, on peut prendre le temps de terminer ton histoire comme du monde.
On finit-tu aujourd'hui avec les chants?
Oh,
parce que j'en ai tellement entendu parler là, que je vais en entendre parler là. Il y a même des textos qui rentrent. N'importe qui nous textait, qui avait déjà fait, nous parlait des chants. Comme ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de si incroyable?
Ben, premièrement, les humains derrière.
Assurément.
Deuxièmement, la première journée, nous, qu'on a fait l'ascension, on est arrivé dans le Rainforest et la montagne nous a dit bonjour, bande de petits blancs de Québec dans votre confort. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et c'est parti à 34 degrés, bien court, puis du tac au tac. Ceux qui n'avaient pas mis leurs vêtements de pluie, pourtant, on nous l'avait dit, dans leur sac, étaient pognés avec un semi-poncho et autres, avec la grêle entre le pois chiche et le couscous israélien qui vous tombe sur la tête, qui vous fendent la peau. Et la température passe de 34 à genre 5 degrés. Donc, il y en a qui sont arrivés en hypothermie.
Mais là, disant pas trop, là, je veux qu'on garde ça
puis,
pour demain, les chants.
Il n'avait pas fait ces chants-là la première journée. Donc, la deuxième journée, ça, c'est un des spectacles qui nous attendait. C'est sûr que mon cellulaire, j'aimerais ça qu'il fonctionne au moment important.
On va prendre le temps. Il veut-tu savoir quelque chose? Il veut-tu coopérer?
Il est peut-être encore en Afrique, là, lui.
Il est sur le décalage horaire. Il manque d'air. La préparation n'a pas bien été pour le téléphone de CV. J'ai des frissons.
Puis je vous en préparerai d'autres, mais tu sais, imaginez le paysage. Là. En ce moment, ce que vous entendez là, derrière moi, c'est une étendue à perte de vue. C'est le deuxième camp de base avec la montagne en arrière. 50 personnes de 120 tribus différentes qui s'entendent bien parce qu'ils savent qu'ils doivent s'entendre, mais c'est aussi une collectivité extraordinaire qui chante sans arrêt, pas de tambour, pas de cymbales, pas de trompette, pas de guitare. Ce n'est que leur voix qui, ensemble, crée un genre de party euphorique. Puis, ils ont fait ça à plusieurs reprises. On en reparlera pendant la nuit du sommet, mais ça, là, tu viens de marcher, t'as chaud, t'es fatigué. Certains étaient en hypothermie, comme je vous dis, à des moments distinctifs, mais tout tombe. Ils font ça avec le sourire, là. Un sourire pur et humain.
Ça vous ramène à la base.
Ah, nous, on a chanté jusqu'à temps qu'on arrive à Québec. Puis j'ai l'impression que dans douche, entre autres, Marc-Antoine Reed, ça chante encore.
c'est fou, Pascal, tu me donnes des frissons. Tu sais, c'est pas comparable à ce que vous avez fait comme expérience. En fait, c'est même pas dans la même catégorie, mais j'ai eu la chance, plus jeune, de faire un voyage humanitaire.
Mm-hmm.
Puis je me souviens que c'est des. En République dominicaine, on allait monter, en fait, une maison pour une famille qui était franchement démunie. Là. C'était triste à voir. Puis les rencontres humaines, les repas dont tu parles, les chants s'en faisaient partie, l'espèce de communion de tout d'un coup, tout ce qui compte, là, c'est vraiment physiquement, purement l'humain. Il n'y a rien d'autre.
Rien d'autre.
Puis ça fait, mon Dieu, j'étais en secondaire 4, là, fait que ça fait quoi, mettons, presque 15 ans. Puis c'est quelque chose que je traîne encore aujourd'hui, fait que je peux même pas imaginer.
Mais j'espère que ça te le ravive un peu parce que dans le brouhaha, là, on oublie des fois.
T'as même pas idée comment tu nous fais voyager ce matin, tu nous fais revenir à l'essentiel. Puis je pense que même sans avoir vécu ce genre d'expérience-là, c'est facile de se rattacher à la base en t'écoutant. On va faire une partie 2 demain, assurément. Ça fait 35 minutes, puis on est loin d'avoir
fini. J'ai
l'impression
que ça fait 5.
Là, garde-nous-en. Là. Oui. Je vais vous écouter ce midi, mais là, on fait une demi-heure demain. Fait que...
Je pense qu'avec Jeff, on va aller plus sur le défi mental, ce que ça amène, ce que ça apporte. Ouais. C'était ma première fois où j'avais à me préparer sur du long terme pour ça. Puis d'ici demain, même poste, je vous pose une question, je vous amène une réflexion.
OK.
Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, finalement, dans la vie? Puis combien de temps... en termes de pourcentage aussi, vous investissez quotidiennement pour ça.
Le karaoké tous les vendredis soirs.
Ben, tant mieux, c'est ça. Mais
si tu le prends rien, moi j'ai le goût de broyer. C'est ma job là, puis genre m'en aller dans un autre pays.
Si c'est ta priorité, puis tu me réponds du tac au tac que c'est ta famille, par exemple, combien de temps de qualité quotidiennement t'investis dans ta famille?
C'est très beau.
Bonne réflexion, les amis.
Pascal, bon retour. On t'écoute ce midi dans On en jase. On se reparle demain du sommet de ta préparation, des détails, encore une fois. Moi, l'hygiène, j'ai pas fini de te poser des questions en passant. Là, je pense que la tête ressemble. On se reparle demain. Merci pour ton temps.
Merci. Le tramway, si tu fais ça, finalement?
Ah, mon Dieu, non, faudrait que tu repartes une couple de semaines, même 2 mois, d'aller voir.
Merci. Merci, Pascal. Merci, Audrey. Au retour, on fait le tour de l'alignement du Canadien de Montréal pour le match de ce soir face aux Preds de Nashville. Ça a été dévoilé dans les dernières minutes et il y a des surprises. Le point de match.